site web. Nous allons voir Éphésiens 4 ensemble. Donc, si vous pouvez ouvrir vos Bibles à Éphésiens 4, versets 7 à 16 dans le Nouveau Testament. Nous voyons la valeur clé, la formation pour tous les membres dans l'Église. Donc, nous allons prier et puis nous allons lire le passage. Et c'est également sur les feuilles que je vous avais reçues si vous voulez suivre là-dessus. Prions ensemble. Notre Père, te louons pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous parles. Quel privilège de nous mettre à l'écoute de ta voix. Donne-nous une idée claire de ce qu'est ton plan pour l'Église locale. Et nous te prions que notre Église ici à Louvain-la-Neuve puisse être conforme à ce plan. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, Éphésiens 4, versets 7 à 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Mais, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier est bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son croissance dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Jusqu'à là, la lecture. Je ne sais pas si vous avez essayé de monter un meuble, peut-être d'IKEA ou autre part, sans le mot d'emploi. Voilà, peut-être les hommes ici ils se disent « Oui, facile, pasteur, on peut faire ça sans regarder. » Et on commence, et c'est, voilà, on commence à mettre des choses ensemble. Mais petit à petit, on constate que ça aurait été plus facile d'avoir le mot d'emploi sous la main. Chez nous, il y a un lit escamotable. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un lit escamotable. C'est un lit, un grand lit, mais qui se rabat pour être comme une garde-robe. Et donc, on ne le voit pas pour la plupart du temps. Une femme nous a passé cela en déménageant ici, mais c'était voilà, tout démonté dans son garage. Et on n'avait pas le mot d'emploi pour le monter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à mes beaux-parents. C'est ça ce qu'on fait. Et donc, ils sont venus. J'ai cherché quelque chose sur Internet qui ressemblait un petit peu à ça. Et on a galéré. On a galéré pour mettre ça ensemble. Mais maintenant, c'est très confortable, ça marche très bien. Mais c'est toujours plus simple, n'est-ce pas, lorsqu'on a des consignes claires et un mode d'emploi. Et c'est la même chose pour l'Église. C'est la même chose pour l'Église. Nous voyons autour de nous tellement de modèles, tellement d'idées différentes de comment on doit faire l'Église, qu'on peut être un peu dans la confusion. Est-ce qu'il faut faire comme les catholiques, avec un prêtre et être dans un très beau bâtiment? Est-ce qu'il faut avoir un moment de louange super intense afin de ressentir la présence de Dieu? Est-ce qu'il faut chercher des visions, des voies de Dieu en dehors de la Bible? Comment vivre la vie d'Église? On peut être un peu perdu en voyant autour de nous tous ces modèles, toutes ces idées différentes. Mais heureusement pour nous, Dieu nous a donné un plan très clair pour son Église. Et c'est ça ce que nous voyons en Éphésiens 4, c'est un des passages les plus clairs pour comment on doit vivre la vie d'Église. L'Église est située au centre du plan de Dieu pour l'univers. C'est ça ce que la lettre aux Éphésiens dit. Et nous allons voir le plan de Dieu pour l'Église. Trois choses nous allons voir ensemble. La formation pour tous, la croissance pour tous et le ministère pour tous. Premièrement, la formation pour tous. Le verset clé de cette section, versets 7 à 12, c'est le verset 12. Regardez avec moi le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service. Donc, Paul parle du perfectionnement des saints. Alors, c'est qui les saints? Lorsqu'on pense aux saints, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Peut-être c'est Saint Christophe, peut-être c'est Saint Jacques de Compostelle. L'idée, selon l'Église catholique, que des gens qui étaient exceptionnels, qui sont maintenant morts, deviennent en quelque sorte des saints. C'est comme ça qu'on utilise le terme, n'est-ce pas? Mais aussi, on voit que ça ne peut pas être ça, parce que Paul parle des gens qui sont vivants, qui sont en train d'être perfectionnés, formés. Donc, ce n'est pas ça. Mais saints, ça veut dire des gens qui sont mis à part par Dieu et pour Dieu, choisis par lui pour lui appartenir. Je ne l'ai pas amené avec, apporté avec moi, mais votre brosse à dents, j'espère, est sainte. Vous avez une brosse à dents qui est sainte, parce que cela appartient à vous, et rien qu'à vous. J'imagine que vous ne partagez pas ça avec d'autres. Et c'est pour une tâche spéciale. Vous n'allez pas commencer à frotter les WC avec la brosse à dents, ce serait dégueulasse. Mais voilà, c'est saint, c'est mis à part pour une personne en particulier, pour une tâche particulière. Et nous sommes mis à part, les chrétiens, pour Dieu, pour le servir. C'est ça ce que ça veut dire, saint. Et donc, lorsque la Bible parle de saint, ce sont des chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus. Et ici, on parle du perfectionnement des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, le perfectionnement des saints? C'est l'idée de la formation, d'être formé, équipé pour quelque chose, pour servir Dieu. Nous connaissons, je pense, le principe de la formation. Certains font des doctorats pour se former dans une matière précise. D'autres font des stages de formation, partent au loin pour faire des stages de formation. Ou si vous voulez perfectionner vos talents sportifs, vous allez vous joindre à un club de football ou quelque chose, vous allez avoir une séance de formation avec un entraîneur. Vous allez vous perfectionner. Le coach nous entraîne, nous aide à progresser. Et l'idée dans l'Église, selon Paul, c'est qu'il y a de la formation pour tous les saints, pour tous les chrétiens. Donc l'Église n'est pas un endroit où on vient seulement pour recevoir et pour apprendre, bien que cela soit utile. À l'Église, on est censé s'entraîner. Lorsqu'une église se rassemble, parfois on appelle ça culte ou rassemblement ou célébration, mais peut-être on pourrait appeler ça entraînement. Peut-être on pourrait appeler ça entraînement. Alors, Église protestante Louvain-la-Neuve, entraînement dimanche à 16h. Entraînement, parce que c'est ça ce qui a lieu. L'entraînement des saints, l'entraînement des chrétiens. L'Église sert à former les gens. Qui est formé? Les chrétiens. Mais qui forme les gens? Mais ça, c'est les versets 7 à 11. Nous allons voir cela. Revenons au verset 7 à 11. Parce que Paul dit que chaque chrétien, verset 7, a reçu la grâce de la part de Christ. La grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Donc Dieu nous a donné chacun sa grâce pour pouvoir le servir. Il n'y a pas deux classes de chrétiens dans l'Église. Une classe de chrétiens qui se forme, comme Johnny, les stagiaires, et nous, on l'observe de loin. Non, tous sont formés, tous sont équipés par Christ pour servir. Et comment? Mais versets 8 à 10, on a une citation de l'Ancien Testament. Ça vient du psaume 68, un psaume qui parle de la victoire de Dieu sur ses ennemis et comment il sauve son peuple. Et il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs. C'est ça ce qu'on faisait à l'époque antique. Si on était un roi victorieux, on entraînait avec nous des captifs derrière nous pour montrer qu'on avait gagné, on était victorieux. Dieu est victorieux et il emmène des captifs avec lui. Et ici, Paul applique ces versets à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin du verset 8? Il fait des dons aux hommes. Donc Jésus, il fait des dons aux hommes. Et verset 9, nous voyons que Jésus est monté, mais d'abord il est descendu dans les régions inférieures de la terre. J'ai appris juste cette semaine le point naturel le plus profond du monde entier. Est-ce que vous savez où c'est? Le point le plus profond?
Mariana Trench.
Mariana Trench, c'est ça, peut-être? C'est où? Tu sais où c'est?
Guam.
Alors, moi je ne sais pas. Moi j'ai quelque chose de sur ma feuille. Donc c'est la fosse Challenger au fond de la fosse des Mariannes qui est près des Philippines, quelques 11 kilomètres en dessous du niveau de la mer. 11 kilomètres, c'est l'endroit le plus profond. Mais l'idée ici, c'est que Jésus est venu vers les régions inférieures de la terre, pas tant géographiquement, mais dans son humiliation. Il est venu de l'endroit le plus haut, ciel le ciel, pour venir sur la terre. Le Fils de Dieu a pris une nature humaine pour vivre parmi nous. Il est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Et il est mort sur la croix, dans l'humiliation entière, en prenant sur lui la colère de son Père pour nous, à notre place. Il est descendu. Et puis, celui qui est descendu, verset 10, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Nous avons démarré un parcours découverte de la foi. Et vous avez les flyers sur les chaises. Nous avons démarré ça mercredi passé. On parlait de la question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Et c'est intéressant de faire la comparaison entre Jésus et les autres religieux, les autres personnages religieux comme Bouddha et Mohammed. Et quelle est la différence? Une des grandes différences entre Bouddha et Mohammed, Bouddha, il est encore dans son tombeau, le corps, et le corps de Mohammed encore dans son tombeau. Mais le corps de Jésus n'est pas dans son tombeau, parce que 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et 40 jours plus tard, il est monté au ciel pour commencer son règne. C'est ça ce que ça veut dire, remplir toutes choses. Il règne maintenant sur tout l'univers. Donc Jésus est le roi tout à fait unique, victorieux. Et dans sa victoire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dons à l'Église. Il fait des dons à l'Église. Et c'est ça ce que nous voyons au verset 11. C'est lui, donc Jésus, celui qui est ressuscité, qui est victorieux, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tout cela pour former les chrétiens. Ici, nous avons des apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. Nous avons les prophètes qui étaient à la même époque des apôtres. Nous voyons cela en 3, 5. Peut-être on peut voir 3, 5 si vous avez la Bible sous les yeux. Chapitre 3, verset 5. Parce que lorsqu'on entend parler des prophètes, on pense souvent à l'Ancien Testament. Mais s'il semble que Paul parle des prophètes à l'époque du Nouveau Testament, dans verset 5 du chapitre 3, ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Donc là, nous avons des gens qui étaient des prophètes à la même époque, des apôtres, qui ont mis par écrit les Écritures. Et c'est ça qui sert de fondation. Les écrits des prophètes, des apôtres, ça sert de fondation pour l'Église. 2, 20, deuxième verset qu'on peut voir, chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Donc ici, nous avons les gens que Dieu a donnés à l'Église pour servir de fondation. Leurs écrits sont la fondation de l'Église. Les écrits des apôtres, nous les avons dans la Bible pour servir de fondation, la parole de Dieu pour nous. Ensuite, nous avons les évangélistes, ça veut dire les proclamateurs, ceux qui proclament la bonne nouvelle de Jésus. Peut-être c'était à l'époque des apôtres, peut-être c'est encore le cas maintenant. Et puis, nous avons des pasteurs docteurs, ça veut dire les enseignants. C'est une seule personne. Pasteur, enseignant. Celui qui est pasteur, c'est celui qui enseigne. Celui qui enseigne, c'est celui qui est le pasteur. Et donc, nous avons ces gens, Dieu a donné à l'Église pour former tous les chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes? Je pourrais dire, ben, essayons 3 autres personnes. Un basketteur, un footballeur et un joueur de rugby. Qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Sport. Oui, ils sont sportifs.
Compétition. Ballon.
Voilà, le ballon. Ils jouent tous avec un ballon, n'est-ce pas? Avec une balle. Connaissez-vous un écrivain, un poète, un romancier? Qu'est-ce qu'il y a en commun? Poète, écrivain, romancier. Ils écrivent tous. C'est bête, mais c'est facile. Mais ici, nous avons 4 personnes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'évangile, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont des enseignants, la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu va former les chrétiens? Mais c'est par la parole de Dieu, le plan de Dieu. C'est qu'il donne les enseignements de la Bible à l'Église pour former les chrétiens, pour le service. Et arrêtons-nous un peu avant d'aller plus loin pour souligner 2 implications de ces versets. La première, c'est si on veut être une église qui suit le plan de Dieu, nous devons garder la Bible au centre de notre Église, de tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. Maintenant, toutes les églises vont dire que la Bible est importante, bien sûr. Mais leur pratique révèle si la Bible est vraiment au centre ou pas. Certaines églises sont davantage préoccupées par l'écoute de la voix de Dieu en dehors de la Bible, mais ce ne sont pas des églises qui suivent ce modèle que Paul nous a laissé. Il faut que la Bible ait la première place. D'autres églises, malheureusement, font le tri dans l'enseignement de la Bible en insistant sur les aspects qu'ils aiment bien, mais en refusant de croire aux aspects qui fâchent. Comme par exemple les églises qui disent que les relations homosexuelles sont acceptées par Dieu, tandis que dans la Bible, elles constituent une offense devant lui, tout comme les péchés, comme les autres péchés, comme l'adultère ou les relations hétérosexuelles en dehors du mariage. Dans un tel cas, la Bible n'est plus au centre. Certaines églises mettent plus d'emphase sur la tradition que la Bible. La Bible n'est plus au centre. Il faut que la Bible soit au centre. C'est le plan de Dieu. Les dons que Jésus a fait à l'Église sont tous issus de la parole de Dieu. Et la deuxième implication, c'est qu'une Église qui veut suivre le plan de Dieu doit être une Église qui s'engage à former tous ses membres. Par l'enseignement de la Bible, le pasteur et les anciens forment les chrétiens. C'est ça ce que nous voulons faire dans cette Église. Nous voulons vous équiper à travers l'enseignement de la Bible, afin de pouvoir lire la Bible pour vous-même à la maison, afin de pouvoir diriger les études bibliques, afin de pouvoir ouvrir la Bible avec un autre chrétien en semaine pour s'encourager mutuellement, afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vos amis non chrétiens. Et nous voulons former des hommes pour devenir pasteurs anciens, comme Johnny. Nous voulons former des femmes aussi. Nous voulons que notre Église soit un lieu de formation pour tous les chrétiens, avec la parole de Dieu au centre. La formation pour tous. Mais quel est le résultat de cela? Quel est le résultat dans une église où on fait cela? Mais ça, c'est les versets 12 à 14. La croissance pour tous. La croissance pour tous. Lorsque j'étais petit, on allait rendre visite à mes grands-parents. C'était très chouette de faire ça. On mangeait bien, on jouait avec leurs jeux, on mettait le bazar partout. Et sur la porte de la cuisine chez eux, ils avaient marqué au crayon la taille de chacun de leurs petits-enfants à chacune de leurs visites. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Roby, 5 ans, ici, ou je ne sais pas, là. Roby, 6 ans et demi, là. Et c'était encourageant de voir qu'on grandissait. Je voulais toujours être aussi grand que Tom, mon cousin. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je pense que je suis arrivé au stade de ne plus grandir, malheureusement. Mais c'est normal, l'enfant qui veut grandir, c'est juste normal, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'Église, nous voulons grandir dans la maturité. C'est normal, on ne veut plus être des enfants dans l'Église, on veut être mûrs, on veut être comme des adultes. C'est ça le plan de Dieu. Et comment est-ce que Dieu va faire ça? Mais Jésus donne les enseignants de la Bible pour former les chrétiens, verset 12, en vue de l'œuvre du service, c'est-à-dire de servir, et de l'édification du corps de Christ. Et cela donne lieu à la maturité. Nous voyons trois choses au verset 13, parce que le résultat final donne quelque chose d'extraordinaire. Nous faisons des travaux chez nous. Pour l'instant, on va mettre un escalier, enfin, chez nous, au rez-de-chaussée. Ça, c'est chouette, on est très contents de cela. Et l'ingénieur nous a donné des plans de ce à quoi ça va ressembler. Et dans quelques semaines, on espère que les ouvriers vont venir et petit à petit, jour après jour, la maison va ressembler davantage au plan qu'il nous a dessiné. L'escalier prendra forme. Et ici, Paul, au verset 13, c'est comme s'il nous donne les plans, le dessin de ce que ça va donner à la fin et ce vers quoi nous devons tendre en tant qu'Église. Mais qu'est-ce que c'est, verset 13? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, premièrement, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Deuxièmement, à l'état d'homme parfait. Troisièmement, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le premier signe de la maturité dans une église, c'est l'unité. Avez-vous déjà connu une église où il y avait des divisions? C'est triste. C'est triste. Et c'est le signe d'une église immature, malheureusement. Une église qui grandit connaît l'unité, pas juste une unité superficielle qui évite d'aborder des sujets délicats, juste une unité autour du style de musique qu'on aime tous. Non, le verset 13 précise qu'il s'agit d'une unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On est unis autour du même message. On connaît le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour mourir à notre place. C'est ça ce qui unit une église. Si le message de Jésus-Christ est au centre de cette église. Et si c'est le cas, cette église grandira à l'état d'homme fait, vers à la mesure de la stature parfaite du Christ. Christ est la tête du corps et nous allons grandir en maturité avant le dernier jour, quand nous verrons Jésus face à face. Ça, c'est ce que nous visons. Et donc, nous ne serons pas comme les enfants au verset 14. Il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Un parent de l'école m'a avoué un jour récemment que ça le frustrait de voir sa fille qui était en fin d'école primaire aimer encore jouer avec ses poupées. Il était frustré par cela. Ou parfois, on voit des adultes qui passent beaucoup, beaucoup de temps à jouer des jeux vidéo et on se dit, est-ce qu'il est temps de grandir. Mais il ne faut pas rester un enfant dans la vie, et c'est la même chose dans l'Église. Parce que le verset 14 nous donne un portrait de ce que c'est être un enfant. Verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice. » L'image fait un peu peur ici, n'est-ce pas? C'est l'idée d'un enfant peut-être sur un matelas pneumatique, sur des vagues, qui se laisse emporter par la marée. C'est un affreux cauchemar pour tout parent. Mais Paul dit qu'une église qui grandit va éviter une telle sorte d'être à la merci des vagues, des doctrines différentes. Car si on ne garde pas la Bible au centre, si on ne forme pas les chrétiens, on sera à la merci de différents enseignements, que ce soit sur YouTube, sur les blogs, dans les livres ou dans les églises. On se laissera entraîner finalement par tout vent de doctrine. Et admettons-le franchement, ce n'est pas facile parfois de faire le tri dans tout ce qui se dit chrétien. Je pense à quelqu'un comme Joyce Meyer, vous avez peut-être entendu parler d'elle. Elle dit des choses qui sont vraies, qui viennent de la parole de Dieu, mais elle dit aussi beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Et c'est dangereux. Mais c'est parfois attirant, son enseignement. Ou je pense au livre de La Cabane. La Cabane, je ne sais pas si vous avez lu cela, j'ai ça ici en anglais seulement. Mais ça a été adapté au cinéma. C'est une histoire vraiment émouvante de quelqu'un qui a énormément souffert, qui cherche des réponses auprès de Dieu. Mais en fait, ce livre est dangereux, car il va à l'encontre de la manière dont Dieu est décrit dans la Bible. Dieu dit que Dieu, dans la Bible, qu'il prend le péché très au sérieux, mais dans ce livre, il ne prend pas du tout le péché au sérieux. C'est un portrait de Dieu qui est faux, même s'il est séduisant au premier abord. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Ou on peut penser à ce qu'enseigne l'Église catholique. Il est très tentant de se dire, mais elle enseigne les mêmes choses que nous, finalement. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si on voulait participer à une rencontre œcuménique pour l'unité des chrétiens avec les catholiques. Et j'ai dit que non, en tant qu'Église ici à Louvain-la-Neuve, nous ne voulons pas participer à de telles rencontres parce que nous n'estimons pas que le message au centre du catholicisme soit le message qui est proclamé par la Bible. Nous avons besoin de discernement. Et c'est ça ce que Dieu nous donne dans l'Église par les enseignants de la Bible qui forment les chrétiens. Ainsi, nous grandirons dans la maturité et nous allons grandir dans le discernement. Est-ce que vous voulez grandir dans la maturité spirituelle? Mais choisissez une Église où la Bible a la place centrale. Mais que font les membres alors pour arriver à cette maturité? Qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Et ça, c'est la dernière chose que nous voyons ensemble. Versets 15 à 16, le ministère pour tous. Nous sommes formés pour servir. C'est ça ce que le mot ministère veut dire, servir. Mais comment pouvons-nous servir dans l'Église? Mais le verset 15 nous le dit. Lisons le verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ici, nous voyons le même thème qu'au verset 13 et 14, la croissance spirituelle. Comment y arriver? En se disant la vérité avec amour. C'est ainsi que l'Église va grandir. C'est dans ce but que les enseignants de la Bible vont former les chrétiens. Et qu'est-ce que cela veut dire de dire la vérité dans l'amour? Est-ce que cela veut dire de dire les choses difficiles à entendre, mais avec amour? Jean, tu as un gros nez, mais je t'aime quand même. Est-ce que c'est ça que Paul dit ici? Non. Dans la lettre aux Éphésiens, la vérité, c'est la parole de vérité qui est l'Évangile. L'Évangile qui nous sauve. Le message concernant un Dieu qui nous a créés, contre lequel nous nous sommes rebellés. Un Dieu qui va juger à la fin des temps. Mais un Dieu dans son amour qui a envoyé un Fils, son Fils, pour mourir à notre place, pour nous donner la vie éternelle. C'est cette vérité-là que nous devons nous dire les uns aux autres. C'est l'Évangile. On se dit la vérité les uns aux autres. Et ainsi, on grandit dans la maturité. Et nous voulons qu'à notre Église ici à Louvain-la-Neuve, la dynamique de se dire la vérité dans l'amour soit le cœur battant de notre vie ensemble. Comment est-ce qu'on peut se dire la vérité avec amour? De plein de façons. On peut parler de la prédication juste après autour d'un café. C'est pour cela que pour la toute première fois, nous avons mis sur la feuille, vous avez peut-être vu, une question autour du café. Vous pouvez, si vous voulez, aborder une conversation après avec quelqu'un d'autre en disant « Mais qu'est-ce que ça change dans ma façon de concevoir l'Église ?» C'est un moyen de se dire la vérité dans l'amour. Ou cela pourrait être un message en semaine que tu envoies un frère, une sœur avec un verset biblique qui t'a encouragé. Ça pourrait être un appel téléphonique à un chrétien qui souffre. Ça pourrait être lors de l'étude biblique le mercredi soir où on vient précisément pour se dire la vérité dans l'amour. Ne serait-ce pas super si cette église, dans cette église, il y avait un mouvement de lecture de la Bible les uns avec les autres. Un livre chrétien qui m'a beaucoup aidé à comprendre cela, ça s'appelle « L'essentiel dans l'Église ». Je ne sais pas si vous connaissez cela. Il y a un exemplaire qui est disponible sur la table. Mais dans ce livre, il nous donne un portrait de ce que cela peut donner, une Église où on ouvre la Bible, où on se dit la vérité dans l'amour. Je vais vous citer un extrait. Nous pourrions parler d'un mouvement de lecture de la Bible en famille, dans l'Église, avec les voisins et dans la vie professionnelle, en un mot, partout. Imaginons un instant l'impact si tous les chrétiens, dans le cadre de leur engagement de disciples, faisaient partie d'un réseau de lectrices et de lecteurs de la Bible. Ils ne se limiteraient pas à une lecture personnelle, mais ils en parleraient avec leurs enfants à l'heure du coucher, avec leurs conjoints au petit déjeuner, avec un collègue du travail non chrétien une fois par semaine pendant la pause de midi, avec un nouveau converti une fois tous les 15 jours, et une fois par mois avec un chrétien plus mûr dans la foi pour vivre un encouragement mutuel. Ça donne envie, n'est-ce pas, de se rencontrer pour ouvrir la parole ensemble. Peut-être vous vous dites, mais je ne sais pas comment faire cela. Mais justement, l'Église est là pour nous former. Les entraînements ont lieu le dimanche à 16h, mercredi soir à 19h30. Nous avons tous un rôle important à jouer au sein de l'Église. Nous voyons cela au verset 16. Parce que de lui, de Christ, le corps tout entier bien ordonné, cohérent, c'est-à-dire lorsqu'on travaille tous ensemble, grâce à toutes les parties, toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est lorsque chaque chrétien est en train de vivre cela qu'on va grandir tous ensemble dans la maturité. Et cette vision biblique est radicale, je pense, et cela, ça rectifie beaucoup d'idées reçues concernant l'Église. La première, c'est au sujet du rôle du pasteur ou des anciens. Souvent, nous pensons que le rôle du pasteur dans l'Église, c'est de tout faire par lui-même. Oui, les membres peuvent aider de manière pratique en installant les chaises, peut-être en servant le café, mais c'est le pasteur ou les pasteurs qui ont le rôle vraiment important. C'est à lui d'enseigner la Bible. Et en fait, ce passage dit qu'on a tous un rôle hyper important pour ouvrir la Bible les uns avec les autres afin de se dire la vérité dans l'amour. Il ne faut pas concevoir l'Église comme un bus. Un bus, qu'est-ce qu'on fait dans un bus? On monte dans le bus, on s'assoit, il y a quelqu'un devant qui conduit, nous on ne fait pas grand-chose, on est peut-être sur le GSM ou autre, et voilà, le bus roule tout seul ou avec le conducteur. Non, L'Église est plus comme un orchestre. Un orchestre. On ne peut pas être un membre actif dans un orchestre sans jouer d'un instrument. Ça n'a pas de sens. Oui, il y a un chef d'orchestre qui aide les instruments à jouer ensemble. Mais tout le monde joue et prend une part active dans la vie de l'Église. Et c'est ça ce que Éphésiens 4 nous dit. Dans la deuxième idée reçue que cela rectifie, c'est la manière dont nous concevons le rôle que nous jouons à l'Église. Parfois, nous pensons que nous ne jouons pas vraiment un grand rôle dans l'Église si nous n'accomplissons pas un service quelconque, un dimanche ou un autre. Je me souviens, une fois, Lizzie m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais à l'Église de dimanche ?» Et je me suis... Voilà, j'ai pensé « Est-ce que je prêche ?» Non. « Est-ce que j'anime la rencontre ?» Non. « Est-ce que je joue au piano ?» Non. J'ai dit « Je fais rien à l'Église. » Est-ce vrai pour un chrétien qui peut dire ça ?« Je fais rien à l'Église. » Selon le verset 15, jamais. On se dit la vérité dans l'amour. C'est ça notre rôle, notre tâche chaque fois qu'on vient à l'Église. On a chacun un rôle chaque fois qu'on se rassemble. On fait toujours quelque chose et on est formé pour le faire. Et la troisième idée reçue que cela corrige, c'est qu'après la rencontre dominicale, parfois on peut penser que nos devoirs religieux sont accomplis pour la semaine. On peut reprendre une vie normale après un peu de spiritualité le dimanche. Mais non, ce passage nous a enseigné que l'Église, c'est comme une séance d'entraînement. Le match commence au moment où on sort de cette salle à la fin. Comment est-ce que je vais vivre cette semaine en encourageant les autres frères et sœurs pour qu'on grandisse tous ensemble dans la maturité? Est-ce que je pourrais prendre un café avec un autre chrétien cette semaine pour l'encourager? Est-ce que je pourrais aménager un moment pour lire la Bible avec mes enfants, avec mon conjoint, avec un voisin non chrétien? Les possibilités sont sans fin. Quel est le plan de Dieu pour l'Église? Est-ce qu'il nous a laissé un peu dans le flou à ce sujet, comme un meuble IKEA sans mot d'emploi? Non, il nous a fait connaître son plan. Jésus, le Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il a donné des personnels à l'Église, des enseignants de la Bible qui forment les chrétiens pour pouvoir servir les uns les autres en se disant la vérité dans l'amour. Ainsi, nous grandirons dans la maturité, nous grandirons dans le discernement quand nous travaillons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Prions que notre Église vive, suive ce modèle que Dieu nous a donné. La formation pour tous, la croissance pour tous et le ministère pour tous. Prions ensemble pour terminer. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Notre Père, combien nous te louons pour ton plan si clair dans tes Écritures concernant l'Église. Merci pour les personnes que tu as données à l'Église pour enseigner ta parole, afin que tous les chrétiens soient formés. Et merci parce que nous avons tous un rôle hyper important à jouer dans la vie de l'Église. Nous pouvons tous se dire la vérité les uns aux autres dans l'amour. Et ainsi, nous grandirons dans la maturité spirituelle. Ainsi, nous grandirons dans le discernement. Et c'est là pour ta gloire. Et nous prions que ça soit le cas pour notre Église ici à Louvain-la-Neuve, qu'il y ait vraiment une dynamique de lecture de la Bible les uns avec les autres, de formation. Et que nous soyons prêts à se dire la vérité dans l'amour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.